Nous recevons pour lesfrançais.press le député des Français de l'étranger, Frédéric Petit, député de la circonscription d'Europe centrale, notamment l'Allemagne ou encore les Balkans. Bonjour monsieur le député, bonjour Frédéric Petit.
Bonjour, merci de me recevoir.
On vous reçoit aujourd'hui puisque vous faites partie de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République autour notamment de la notion de la laïcité. Vous organisez d'ailleurs demain une réunion sur ce thème. Alors pour commencer, quelle est cette commission spéciale? Quand est-ce qu'elle a commencé? Quand est-ce qu'elle va se terminer?
C'est une commission spéciale. On a plusieurs systèmes pour étudier les lois et pour faire fabriquer la loi au Parlement. Un projet de loi va dans une des commissions permanentes parce que c'est exactement cette commission qui est concernée, mais ce texte étant un texte transversal, la commission des présidents du Parlement a décidé de faire ce qu'on appelle une commission spéciale, c'est-à-dire qu'on crée une commission de travail rien que pour ce texte, voilà, dont j'ai l'honneur de faire partie, puisque j'ai été mandaté par mon groupe pour faire partie des 8 commissaire envoyé par le MoDem.
Donc c'est un petit peu une construction de loi. C'est quoi? C'est un renforcement de moyens? On a mis plus de moyens, plus de députés, plus de temps pour construire ce texte classique?
Non, c'est que on l'a décloisonné. Quand on fait une commission spéciale, c'est qu'on décloisonne. C'est-à-dire que sinon, si vous êtes dans vos commissions permanentes, ce qu'on appelle les 8 commissions permanentes de l'Assemblée, il y a la commission des lois qui travaille sur les projets plutôt liés au ministère de l'Intérieur, il y a la commission des affaires étrangères qui travaille sur les ratifications de contrats internationaux, il y a la commission économique qui va travailler sur la loi Pacte, par exemple, etc. Donc chaque commission permanente a son chapitre. Je vous rappelle que c'est le seul endroit où les députés, on contrôle leur présence. Un député, c'est dans sa commission qu'il assume la plus grande part de ses obligations de présence à l'Assemblée nationale. Donc on a des commissions permanentes. Moi, je suis à la commission des affaires étrangères, par exemple. Mais sur certains projets de loi, on décide de faire une commission transversale, une commission non permanente. Et donc on crée une commission exceptionnelle, une commission spéciale, on appelle ça, et donc on la reconstitue. Donc il y a une constitution de la commission spéciale, chaque parti envoyait le nombre de députés qu'il avait le droit d'envoyer, et on a choisi un président, qui est un président qui va être président de cette commission spéciale et qui ne sera plus président à la fin de ce projet de loi, etc. Donc c'est une manière de travailler, ça, on pourrait le faire pour chaque loi si on avait envie.
Alors justement, l'origine de ce texte, de ce projet de loi, on n'était pas d'accord en préparant cette interview. Moi, je vous disais, c'est l'assassinat de Samuel Paty et les propos d'Emmanuel Macron qui en ont suivi. Vous me disiez non, c'est plus ancien, c'est le discours des Mureaux.
Oui, on oublie très souvent, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est que j'aime bien être précis sur les faits. Le discours des Mureaux, c'est le 2 octobre, et le projet de loi était déjà en travail, on avait déjà eu des discussions, on en a parlé pendant nos séminaires de rentrée, c'était dans l'air, on savait qu'il allait se passer quelque chose du côté du gouvernement, et on était tous très attentifs à ça. On a même parlé, c'est à cette époque-là que... la petite musique du MoDem, c'était de dire, et on avait proposé pendant un moment... que cette loi devait... Enfin, il fallait aussi qu'on parle de la promesse républicaine, hein, pas uniquement du renforcement des valeurs. Il fallait qu'on ait un côté, ce qu'on appelle nous une deuxième jambe, c'est-à-dire où on parle une loi de lutte contre les inégalités, une loi d'égalité des chances, etc., de non-déterminisme. Vous regardez dans le discours des Mureaux, il y avait quelque chose sur... il faut pas que l'avenir de certains citoyens soit déterminé par l'endroit où ils sont nés. Hein, c'est ce qu'a dit le président de la République dans son discours des Mureaux. Nous, on aurait... Aujourd'hui, on va plus s'orienter vers deux lois différentes. Hein, une loi de renforcement des principes, puis une loi de lutte contre les inégalités, ou un projet d'action, ou un projet gouvernemental, donc on va voir sous quelle forme, mais c'est bien antérieur à l'assassinat de Samuel Paty. Le discours des Mureaux, je crois, est le 2 octobre, et l'assassinat d'Emmanuel Paty est le 16 octobre, je crois. Donc on a tendance à, rétrospectivement, à croire que c'est une loi de circonstance, on va dire, mais pas du tout, c'est un sujet qui nous tient à cœur, et puis qui était un peu dans les grands débats et dans certaines de nos promesses électorales.
Mmh. Et donc, c'était important de le rappeler. Pourquoi cette référence à Samuel Paty? Peut-être parce que c'est cet événement qui a mis en lumière cette espèce d'incompréhension de cette notion de laïcité française dans des pays religieux. Alors que pour Pour les Français, c'est assez naturel. La laïcité, elle est sur le papier depuis le début des années 1900. Elle est régulièrement rappelée. Parfois, elle fait débat, mais on a eu l'impression qu'elle était totalement incomprise et que c'était nouveau, en fait, chez certains autres pays religieux. C'est cet événement de l'assassinat de Samuel Paty qui a provoqué ce sentiment-là, ou alors c'est pas nouveau, ou ça revient de temps en temps.
Non, et puis, vous savez, la laïcité n'est pas française. Nous avons une certaine manière assez originale d'avoir notre histoire de la laïcité. Mais moi, j'ai fait intervenir dans un des séminaires citoyens que je fais très, très fréquemment, au début de cette réflexion, j'ai fait venir la présidente du comité des sages de la laïcité de l'éducation nationale, Madame Schnapper, et qui a eu des phrases assez fortes. Le problème n'est pas la laïcité, ce qui est universel, y compris dans ce que vous appelez certains états religieux, c'est la séparation, la grande séparation, ce qu'appelle Madame Schnapper, c'est-à-dire la séparation entre le politique et le religieux. Et ça, c'est quand même assez répandu, en tout cas, c'est présent dans toutes les démocraties du monde. Évidemment, on ne le fait pas. Les États-Unis séparent le religieux du politique, mais ils jurent sur la Bible et on remercie Dieu dans les discours politiques. Voilà, la position de la France est un peu différente. Elle a une histoire, elle a mis 100 ans en fait à séparer l'Église et l'État, et ça a été un peu plus difficile, etc. On avait trouvé notre équilibre, voilà, qui était l'équilibre qui a tenu 100 ans, les lois 1901, 1905 et 1907, plus les accords de 1923 avec l'Alsace-Moselle. Et puis on vivait comme ça parce que les trois puis quatre religions qui étaient présentes en France, ça leur allait. Donc les trois, c'était christianisme, protestantisme, judaïsme, puis on en parle peu, mais le bouddhisme qui est une petite religion, mais qui est assez bien représentée en France et qui a une activité assez, enfin qui s'inscrit dans ce système-là. Et ce qui a changé ces derniers temps, parce que on n'était pas habitué, parce qu'il y avait d'autres choses qui étaient posées, c'est l'arrivée d'un islam en France qui a une autre manière de comprendre, etc., et qu'il faut qu'on règle maintenant. Mais je crois que, d'ailleurs, cette espèce de narration que la France n'était pas comprise parce que nous étions le seul pays laïque, c'est pas tout à fait exact, ça s'est calmé très vite. Je pense que l'interview du président de la République sur Al Jazeera a été une très bonne idée, parce que s'il y a des choses qui se sont calmées très vite parce qu'elles n'étaient pas, c'était du buzz un peu faux, quoi, parce qu'il ne s'agit pas du tout d'être anti-musulman ou d'être anti-religieux, c'est pas du tout ça.
Donc pour vous, il y a une seule laïcité et pas une laïcité à la française.
Non, je dirais qu'il y a une évolution des démocraties dans le monde qui est de dire, enfin, les démocraties dans le monde se sont toujours construites sur je sépare ce qui est du religieux, ce qui est de la conviction personnelle, de ce qui est de l'organisation politique de la cité. Ça c'est la démocratie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on ne considère plus que le chef est désigné par Dieu, on ne considère plus que on doit tous croire la même chose pour vivre ensemble. Voilà, c'est ça la démocratie, l'évolution de la démocratie, et ça se passe y compris dans des États où la laïcité n'est pas vécue comme nous en France. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je dis là. Et il est peut-être pas tout à fait surprenant qu'au bout d'un siècle, on ait besoin de revisiter nos outils parce que il y a eu des déséquilibres qui ont été créés, qui ne sont pas que des déséquilibres religieux d'ailleurs, qui sont aussi des déséquilibres socio-économiques, qui sont des déséquilibres qu'on essaye de travailler d'ailleurs avec cette loi sur la disparition par exemple du brassage républicain, la réparation du brassage social, la disparition d'une certaine mixité sociale en dehors des grands événements de la nation. Tout ça, c'est des choses. C'est normal qu'une fois par siècle, on puisse se reposer ces questions. C'est pas très choquant.
Alors justement, que contient ce texte de loi? Qu'est-ce qu'il va provoquer à la fin? Est-ce que vraiment on risque d'avoir de la stigmatisation, des représailles sur les Français à l'étranger, de réviser ce texte de loi, d'en rajouter ou de le préciser?
Non, je pense que la petite inquiétude qu'il y a eu un moment, pas du tout. Je pense qu'on est en tout cas, pas du tout par rapport à ce projet de loi qui est assez bien partagé. Enfin, techniquement, il y a des problèmes. Il y a des problèmes sur ce rapport entre cet engrenage entre la loi de 1901, la loi de 1905, puis la loi de 1907, puis l'accord de 1923, qui est parfois un peu compliqué à comprendre. On doit essayer de récupérer. Enfin, on préférait repartir à zéro, mais c'est plus possible de repartir à zéro. Donc là, on a des petites adaptations, des petites incompréhensions. On discute beaucoup, énormément avec les représentants des cultes. On essaye de poser le problème de qu'est-ce que la neutralité, jusqu'où ça doit s'étendre. Par exemple, ça, je crois que c'est très bien et personne ne le conteste. Hein, tout le monde est d'accord que puisqu'un service public doit être neutre, c'est-à-dire un agent du service public ne peut pas afficher ses convictions. Quand il est en fonction d'agent public, hein, vous ne pouvez pas aller à la préfecture et avoir en face de vous quelqu'un qui vous fait un discours ou qui porte des signes religieux. Et ben on s'est dit, y compris dans tout ce qui est service public sous-traité ou délégation de service public, il faut qu'on puisse que voilà, on ne peut pas avoir le bus de la commune qui est déléguée à une société privée et qui considère que comme elle est société privée, elle peut avoir quelqu'un qui conduit le bus et qui est qui profite de ce poste pour faire du prosélytisme religieux. Ce n'est pas possible. C'est comme s'il était, il doit se conduire comme si le bus était conduit par un employé municipal. Donc là, il y a des articles, toute la première partie des articles qui redéfinissent ça, mais qui ne font bondir personne. Hein. Tout le monde est assez d'accord. Et d'ailleurs, c'était parfois fait. Il fallait le renforcer par la loi pour aider certains maires ou pour aider certaines collectivités à prendre les bons choix, à faire les bons choix.
Un mot peut-être sur le volet éducation, en tout cas sur les articles qui concernent l'éducation. On vous sait très attaché dans votre mission sur ce thème. Quelle nouveauté, quelle précision ?
Je m'en suis emparé. Alors, il y a d'abord sur la vie associative et ce que j'appelle moi l'éducation populaire. À mon époque, on appelait ça comme ça, ce qu'on appelle le socio-éducatif, qui a pas mal disparu des quartiers. J'essaye de trouver des biais et de profiter de ce projet de loi, et avec mes collègues du MoDem, on essaye de repartir vers les promesses républicaines. Ce texte doit être un texte positif, hein, pas un texte de sanction. Il doit sanctionner un certain nombre de dérives, mais il doit être aussi un texte qui rappelle les valeurs et qui rappelle la promesse républicaine. Et donc, déjà au niveau des associations, on sent bien qu'il faut qu'il y ait un engagement, c'est-à-dire qu'il y a une toute petite minorité d'associations sur des quartiers qui cherchent à utiliser, faire ce qu'un ministre a appelé l'entrisme, hein, c'est-à-dire à utiliser la liberté d'association, la liberté d'enseignement pour essayer de diffuser quelque chose qui est un projet politique religieux, voilà, il faut être clair, mais c'est une toute petite minorité, et malheureusement, on a parfois du mal. Sur le terrain, on n'a pas toujours, soit au niveau des collectivités territoriales, soit même au niveau des autres associations et des autres citoyens engagés, on a parfois du mal à avoir des outils qui permettent de clarifier ce débat et de valoriser ceux qui, tout en ayant parfois les mêmes convictions de base et les mêmes convictions philosophiques, font du très bon travail d'intégration républicaine. C'est une majorité de ces associations. Donc, il a fallu qu'on développe, il faut qu'on, dans cette loi, on développe des outils qui permettent de dire, par exemple, l'engagement républicain, si on demande une subvention, on s'engage à un certain nombre de choses qui sont non seulement de respecter, mais aussi de valoriser et de devenir un des relais des valeurs de la République. On peut pas, il nous semble logique que si on reçoit une part de la richesse publique pour faire une activité d'intérêt public, eh bien, on soit un des relais de ces valeurs et qu'on ne puisse pas prendre l'argent et rester dans son coin et faire ses petites choses et faire ce qu'on veut. Des choses qui ne sont pas uniquement, d'ailleurs, pas uniquement répréhensibles, hein, mais on considère que c'était quelque chose qui était beaucoup plus présent dans les années 70, 80, 90, quand il y avait encore ces grandes fédérations d'éducation populaire. On considère que s'engager, on s'engage pour autre chose que son propre intérêt ou que l'intérêt des membres de son association. Donc on rappelle par un certain nombre de principes qu'on peut lire évidemment uniquement dans leur aspect sanction, mais qu'il faut lire aussi dans leur aspect, revalorisation de ces principes. C'est exactement le projet de loi. Donc il y en a sur l'association, il y en a sur l'éducation, en particulier sur le renforcement, la rapidité de fermeture des écoles clandestines, hein, parce que nous avons des écoles clandestines. On remet un certain nombre d'outils. Peut-être que c'est un domaine où on est en train de beaucoup travailler avec mes collègues pour mieux calibrer la loi à l'objectif qu'elle veut atteindre, hein, qui est aujourd'hui un petit peu, c'est un peu un bulldozer. Donc on essaye de la rendre plus précise sur ce qu'on veut combattre et ce qu'on veut pas combattre. Par exemple, sur l'éducation en famille, hein, y a beaucoup de gens qui nous écrivent en disant « l'éducation en famille, c'est pas du radicalisme musulman », ce qui est vrai. Donc il faut qu'on précise, mais c'est intéressant de préciser, ça aide tout le monde de préciser, voilà, qu'il y a une éducation en famille qui, ce que moi j'appelle par exemple des pionniers de l'excellence, hein, c'est très minoritaire, mais il y a vraiment une partie de l'enseignement privé ou de l'enseignement famille qui conforte l'ensemble de la compétence éducative de la nation, parce qu'ils sont en tête, parce qu'ils font des projets, parce qu'ils s'adaptent à la réalité d'enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, etc. Donc ça, c'est très bien, il faut le maintenir. Il faut pas en faire un prosélytisme fou, mais c'est important qu'on ait des pionniers de l'excellence, ce que j'appelle des pionniers de l'excellence. Par contre, il faut être conscient aussi, et y compris ceux qui le font très bien, il faut qu'ils aient conscience que dans notre droit aujourd'hui, cette liberté d'enseignement qui est telle qu'elle est construite dans le droit d'aujourd'hui, laisse un peu des trous à ceux qui sont qui ont des volontés malsaines et des volontés malveillantes pour notre République. Donc il faut qu'on ferme ces trous.
C'est ce que je voulais vous demander. Est-ce que c'est cette loi, la première chose qu'elle veut combattre, c'est pas tout simplement un islam politique, ceux qui voudraient prendre la main politiquement pour mettre en place une loi religieuse, mais de façon politique? Est-ce que c'est pas 80% du texte au final?
C'est l'objectif principal. C'est extrêmement compliqué parce que nous avons une République dont la tradition était une tradition, je dirais, de moindre diversité d'opinion, de moindre diversité sociale et de moindres inégalités. Donc c'est plus compliqué à construire une loi de rassemblement républicain quand on a 6 religions, quand on a des inégalités sociales, des inégalités géographiques, qu'il y a 100 ans, quand on avait une société qui était beaucoup plus homogène. C'est plus compliqué aujourd'hui, donc il faut que ces outils soient plus travaillés. Voilà, on travaille beaucoup quand même. En ce moment, on est vraiment des artisans législatifs. C'est de l'horlogerie qu'on fait là.
Alors justement, comment vous travaillez? Vous avez défini tout à l'heure le rôle de la commission par rapport à d'autres outils pour légiférer. Donc 8 personnes hein, dans cette commission. Combien d'heures de travail? Combien de jours? Comment ça se passe? Ce sont des auditions? Ce sont des ateliers? Comment vous écrivez cette loi?
Alors, d'abord, on travaille beaucoup. Vous avez parlé de jour, on peut même rajouter les nuits. Hein. Cette nuit, c'était 1h du matin et 7h ce matin pour recommencer parce qu'on a des amendements à déposer. Enfin, voilà, on travaille dans le groupe dont je fais partie. On a commencé à travailler avant la rupture de Noël. On a travaillé pendant nos vacances pour bien lire le texte. Donc ça c'est pour notre groupe de 8 du MoDem, hein, mais la commission fait 70 personnes, comme toutes les commissions, en gros. Il y a un nombre, voilà. Donc on a travaillé énormément, y compris pendant la suspension, pendant les suspensions. On a commencé à retravailler le 4 janvier, on était tous à Paris, et on a fait des auditions, c'est impressionnant ce qu'on a fait comme audition la semaine dernière et cette semaine. On en a plus de 60. Sans compter donc les rencontres qu'on organise personnellement, comme celle que je vais organiser demain, celle que j'ai organisée la semaine dernière, où on travaille. Là, j'en avais une, il y a ce qui m'a mis un peu en retard tout à l'heure, avec un citoyen qui voulait s'adresser aux députés pour partager, pour réfléchir. Et c'est un travail énorme, mais un travail intéressant. Puis il y a en même temps, on fait un travail qui est un travail non seulement de construction, mais le public a peu... comprend peu ce qu'on est en train de faire, quoi. Il a l'impression que nous, on est en face d'un espèce de truc en béton où on doit dire oui ou non, quoi. Non, on est en train vraiment de construire la loi, que ce soit avec le gouvernement. On dit au ministre, non, mais là, il faudrait faire ça. Il dit, ah oui, je vais essayer de voir. Alors, c'est plus difficile avec le gouvernement puisqu'il est l'auteur de la loi, donc il réfléchit puis il argumente, mais également avec nos collègues. C'est-à-dire qu'on est 8 MoDem, par exemple, à l'intérieur de cette commission, mais il faut qu'on porte la voix du MoDem. Donc, il faut qu'on revienne vers nos 60 collègues en leur disant, bah voilà, nous, on pense ça. Eux, ils ne sont pas tous les jours dans le texte, donc ils nous demandent, ils nous racontent ce qui se raconte sur leur terrain, etc. C'est un travail quotidien et c'est un travail, j'insiste sur le fait que c'est un travail qui n'est pas pipé au départ. J'ai horreur quand on me dit, moi, que je suis... que je suis un Godillot ou que je suis un Duplot et que je fais ce qu'on me dit. Non, on travaille et on s'oppose. Et moi, il m'est arrivé de voter contre certains collègues et même contre la majorité ou contre le gouvernement parce que je n'étais pas d'accord. Voilà, donc, et là, cette loi qui est à la fois très importante sur le plan symbolique et sur le plan des grands principes, c'est une loi pour 50 ans, j'espère. Si on la réussit, c'est une loi pour 50 ans. Puisque c'est une loi qui doit réaffirmer des principes. Donc c'est pas une loi qu'on va pouvoir qui devrait être changée dans 3 semaines. Quoi. C'est une loi d'avenir, une loi d'inclusion de la société. Et dans le même temps, c'est une loi extrêmement technique parce que qu'est-ce que c'est que le service public, jusqu'où ça va, hein. On est en train de se dire est-ce que l'entraîneur de foot salarié de son club, il est quelque part service public, il accueille du public, etc. Par contre, le parent qui dit au même entraîneur de foot, oui, je prends ma voiture dimanche matin et je peux prendre 4 jeunes avec moi parce qu'on va en déplacement à Trifouille, sur le terrain de Trifouille, il faut bien qu'on se déplace, on ne va pas louer un bus pour 11 gamins, celui-là, il rend service. On a toutes ces notions-là qu'il faut analyser. Il y a la même chose dans l'éducation. Qu'est-ce que c'est une autorisation? Qu'est-ce que c'est une déclaration qui vaut autorisation? C'est très technique et en même temps, c'est un texte qui doit porter loin, qui doit voir loin, qui doit rassembler. Donc, c'est du travail, mais encore une fois, j'insiste, c'est du travail qui est très ouvert aujourd'hui. Personne ne peut dire aujourd'hui ce qui sera à la fin dans ce texte, à la fin de la commission, à la fin du premier passage en hémicycle, quand il reviendra du Sénat, etc. On fait vraiment un travail qui n'est pas un travail pipé, oui, ou qui n'est pas un travail déjà bouclé et où on a juste à dire oui ou non.
Alors justement, vous organisez demain une réunion en ligne et vous l'avez abordé il y a quelques minutes pour cette démarche de démocratie interne. Comment ça va se passer? Comment vous allez utiliser le résultat, la résultante de cette réunion pour la mission parlementaire? Quel va en être le thème? Comment ça va se dérouler?
Alors, d'une part, il faut l'inscrire dans quelque chose que moi, je fais depuis que je suis élu. Donc très, très souvent, j'en ai déjà parlé ici, ça m'arrive très régulièrement, très souvent, de faire ce que j'appelle des ateliers citoyens, des réunions citoyennes. J'ai participé évidemment au grand débat dans ma circonscription, y compris à Bucarest, y compris à Tirana, à Varna, dans tous les... à Mannheim, j'ai eu des très, très belles réunions avec les Français de Mannheim, les Français de... Voilà, donc... C'est une habitude que j'ai réussi, je pense, à donner à mes concitoyens. Ils m'écrivent, je réponds. Peut-être parce que moi, je fais du distanciel depuis 4 ans, puisque ma circonscription est assez grande, je ne peux pas en faire le tour tous les samedis matins à vélo comme mes collègues. Donc ça, c'est une habitude. Et dans cette habitude, bien évidemment, autour de cette loi, autour de ce projet de loi, ça a beaucoup réagi, même un peu avant, au moment du discours des Mureaux, au moment du drame de Samuel Paty, etc. Des gens réagissent. Et là, comme il y avait beaucoup de flux, je dirais, j'ai décidé... d'inviter les gens plutôt que de leur répondre un par un, de dire écoutez, je suis en train de travailler, prenons un temps tous ensemble et on va passer 1h30 tous ensemble. Donc un petit groupe, j'ai pris ceux qui m'ont écrit ces derniers temps et à qui j'ai pas eu le temps de répondre. Alors pas des porteurs de lobby, j'ai pris des citoyens individuels de ma circo. Voilà, on va être 20aine de personnes et on va pouvoir je vais pouvoir dire ce que je pense et ils vont pouvoir exprimer leurs craintes, leurs espoirs, leurs indications. Alors après, je voudrais quand même dire quelque chose de très, très important, parce que je l'ai senti dans votre question. Il n'y a pas en France de vote contraint. C'est-à-dire que moi, quand je vote ce que je crois bon et j'en suis responsable. Donc demain, je vais écouter. Il y a peut-être des choses que je n'ai pas bien comprises, que quelqu'un va me faire comprendre quelque chose. Quelqu'un demain va peut-être me convaincre que ce que je pensais jusqu'à aujourd'hui n'est peut-être pas tout à fait exact ou qu'il faut que je change. Peut-être que je vais convaincre d'autres. Mais cette réunion, c'est de, comment dire, c'est de la citoyenneté. Hein. Après, je suis en démocratie représentative, je vote et je ne vais jamais expliquer un vote en disant « oui, mais c'est ce que mes citoyens veulent ». Non, non. Quand je vote, je défends mes positions et chaque fois que j'ai voté, mes explications de vote étaient des explications du député qui a été élu pour décider.
Et avant la ligne du groupe ?
Ah, oui, alors, dans le groupe, on est une famille, enfin, vous savez, la famille centriste, on est...
Oui, c'est bien pour ça que je vous pose ça, parce qu'en général, chez les centristes, on est un peu libre.
On est très libre, mais on est très homogène dans nos idées sur un texte de fond comme ça. On a peu de divergences. Hein. Vous savez, je parle des centristes, puis je parle du MoDem. Le MoDem, on a quand même perdu pendant 15 ans tous ensemble. Hein, et donc voilà, on a peu de gens qui varient ou qui sont là parce qu'il faisait plus chaud qu'ailleurs ou plus froid qu'ailleurs. Donc on est plutôt des gens qui, sur le fond, dans des textes de fond comme ça, sur la promesse républicaine, sur tous les amendements qu'on fait, on discute de technique, on discute, voilà, il y a parfois des différences territoriales, hein, il y a moins d'écoles, on s'est aperçu que il y a des départements où il y a beaucoup moins d'expériences d'écoles libres ou d'écoles en famille que dans d'autres. C'est lié à l'histoire des régions, hein, ça. Donc voilà, on a peut-être des différences comme ça, mais en gros, on est extrêmement homogène au sein du MoDem. Alors, peut-être pas au sein de la majorité, ça va, on sent qu'il y a des tiraillements dans la majorité, peut-être, mais nous, on est assez homogène. Et par contre, le lien entre ce que vont me dire les citoyens demain ou ce qu'ils m'ont dit la semaine dernière et ce que je ramène au MoDem, il n'y a pas de boîte noire. Hein. Parce que quand je parle aux citoyens, je leur dis ce que je pense. Je ne fais pas que les écouter, je leur dis ce que je pense. Et quand je ne suis pas d'accord, je dis que je ne suis pas d'accord et j'explique pourquoi. Donc, il n'y a jamais de boîte noire hein, dans ce flux entre les citoyens jusqu'à l'expression de mon groupe et mon expression à l'intérieur du groupe. Bon, après, la décision, c'est celle de la majorité des députés. Hein. C'est ça, j'y peux rien. Moi.
Très bien. Merci en tout cas de nous avoir expliqué ce travail de commission et d'écriture de loi.
Merci à vous. À bientôt.
Merci Frédéric Petit. À bientôt.